Bonjour Mario Del Curto.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Ah ben c'est une belle journée et en préparation de projet, donc ça va, c'est des choses qui me conviennent, quoi.
Ah
C'est
oui.
ouais,
Oui.
ça va,
Bon, bah
ça va.
c'est plus agréable de recevoir des gens qui vont bien plutôt que des gens qui vont pas bien. Ça, c'est un peu une lapalissade, mais ça se voit, vous êtes assez rayonnant comme ça. Mario Del
Oh,
Curto.
les yeux qui coulent, j'ai fait tellement de travail sur
Ah oui,
l'ordinateur.
c'est ça, vous avez les yeux rectangulaires
Ouais, c'est
quasiment.
ça, ouais, avec des
Ouais,
pixels.
sympa. Vous êtes photographe, bien sûr. Votre nom est connu dans ce domaine-là, mais je le dis pour les auditeurs ou les auditrices qui ne le sauraient pas. Et dans Parole de Globetrotter, on a un rapport au voyage, au déplacement. Et alors, j'ai déjà reçu des photographes dont le voyage est le but en soi pour photographier. Vous pas, mais vous vous déplacez quand même énormément.
Oui, c'est-à-dire que le voyage n'est pas le but en soi pour mon travail photographique. C'est plutôt par rapport au projet, par rapport au contenu de ce projet que je voyage. Donc c'est le voyage qui me permet d'approcher, d'aborder les sujets qui sont propres à ma démarche, comme la dernière démarche de mon travail autour de la relation entre l'homme et le végétal. J'ai fait beaucoup de voyages, mais qui étaient dans la volonté et l'envie d'illustrer ces différentes thématiques.
Mais néanmoins, est-ce que le voyage, tout d'un coup, il interfère pas avec votre acte de photographe? C'est-à-dire que tout d'un coup, vous dites, ah tiens, ça m'interroge, et puis je fais des photos, ou tiens, ça me surprend.
Ah ouais, mais bien sûr, moi je suis un peu très, je suis plutôt spontané, instinctif, et généralement je trouve que les chemins c'est fait pour prendre celui d'à côté ou celui qu'on croise. Enfin, c'est jamais une ligne droite, et le voyage, je pense qu'il faut pas voyager en ligne droite, il faut voyager en zigzag. Et je pense que mon travail c'est un peu un zigzag photographique depuis le début, et c'est pour ça que j'ai un peu abordé des thèmes très différents, de la photo de scène, l'art brut, à présent tout le travail autour de cette relation entre l'homme et le végétal, et voilà. Enfin, moi j'aime bien le zigzag, en fait.
Et vous prenez des photos quand vous faites des zigzags et vous prenez justement, comme vous venez de le dire, le chemin d'à côté,
Tout le temps.
tout le
Tout le
temps.
temps, ouais.
Et
Tous les jours.
ces photos qui n'ont pas un rapport direct avec votre projet, vous en faites quoi? Elles sont pour vous? Vous les montrez? Vous les montrez pas?
Oh, il y en a beaucoup que je montre pas, et même celles qui sont dans le sujet, il y en a pas mal qui sont pas publiées, parce
Oui,
que
non, mais j'imagine
voilà.
bien, mais enfin,
Mais
mais c'est quelque chose que quand vous êtes, je sais pas, si vous photographiez quelqu'un, portrait dans une rue, bon, je dis n'importe quoi, hein, j'imagine, c'est des choses qui tout d'un coup peuvent apparaître quelque part.
oui, bien sûr. Bah, après, je serai beaucoup moins pour la presse, hein, parce que la photographie a plus une grande place dans la presse au jour d'aujourd'hui, donc ça devient assez compliqué. Mais après, c'est toutes des images qui peuvent exister sous une forme pour une affiche, pour un théâtre, pour une affiche, pour une compagnie de danse ou pour de l'illustration. Mais c'est vrai que je photographie tout le temps, quoi. C'est un peu ma relation au monde, la photographie. D'ailleurs, mon fils, quand il était jeune, à l'âge de 5-6 ans, il disait, ah, mais moi, j'aime pas tellement partir en vacances avec mon père, parce que tous les 2 mètres, il s'arrête pour photographier un chewing-gum qui est collé contre un mur.
J'ai déjà entendu ça aussi. Tu pourrais marcher plus vite. Non, mais je fais des photos. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Vous évoquiez vos divers centres d'intérêt, Mario Del Curto. Alors on va remonter un peu le chemin. Effectivement, l'art brut, vous l'avez cité. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. C'était au début des années 90. Et je me souviens que vous étiez venu. C'était l'époque des après-midi doux sur la première. Et Jean-Luc Lehmann, vous avez reçu. Moi, je débutais et j'ai fait l'interview avec lui, et vous êtes arrivé avec des tirages, des grands tirages, 30-40, que vous avez étalés un peu partout dans le studio. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais là, ça m'a ouvert à l'idée que parler de photos à la radio, ça avait un vrai sens. Parce qu'on n'a pas forcément l'image sous les yeux, mais l'idée, c'est de la faire passer quand même. Alors, l'art brut, justement, c'est un rapport d'image à image d'abord entre vous et une œuvre picturale et une photo qui va témoigner de cette œuvre-là.
J'irais témoigner, pas témoigner de l'œuvre directement, mais dans la photographie, enfin de mon travail, quoi, de photographe sur l'art brut, on peut dire. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le chantier, c'est l'univers, parce que je pense que moi, j'arrive pas à dissocier l'œuvre du chantier, de l'univers de l'artiste. Et je pense que l'artiste, son univers, son organisation, sa personne fait partie intégrante de l'œuvre, et c'est des clés aussi de compréhension de l'œuvre. Et moi, je suis toujours un peu sceptique sur les expositions où on essaye de pas montrer le chemin et la vie de la personne. Et moi, je trouve que les deux choses sont intimement liées, et le le travail que j'ai fait de photographie des artistes d'art brut, c'est vraiment un travail sur l'univers, sur la personne. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'art brut, c'est le chemin de vie, et c'est de témoigner aussi quand même de ces personnages assez extraordinaires qui vivent souvent dans des conditions modestes et qui sont et qui n'ont pas de prétention, qui n'ont pas d'ego démesuré, et tout à coup il y a une œuvre qui surgit dans cette pénombre, dans cette discrétion, et qui est magnifique. Et en fait, c'est ce que j'essaye de retransmettre avec la photographie et aussi avec quelques films que je fais là depuis 7-8 ans avec Bastien Genoux, qui là est justement un autre complément de la photographie. C'est que je trouvais que quelquefois il manquait la parole, et le film permet justement de profiter de la vie des artistes, du fait qu'ils soient vivants et qu'ils puissent quelquefois, malgré des hésitations, malgré des fois des difficultés d'expression pour certains, pas pour tous, de pouvoir transmettre la parole, qui est souvent, la parole de l'artiste d'art brut, elle est rappropriée. Soit l'historien d'art, le galeriste, le conservateur de musée se rapproprie ce discours et cette œuvre pour sa propre statue, en guillemets. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'était de transmettre de façon la plus brute possible, la plus directe possible, la parole des artistes. Et comme j'essaye de transmettre de la façon, je dirais, la plus simple possible et la plus directe possible, l'univers de l'artiste d'art brut, pour donner un peu des clés de compréhension de l'œuvre. Mais c'est aussi, dans le fond, je pense que c'est aussi l'envie de rendre hommage à ces créateurs que j'admire beaucoup et pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Donc je pense que c'est à la fois un hommage. Puis depuis que je travaille aussi sur les questions de cette relation homme-végétal, de biodiversité, je pense que c'est aussi une façon de donner une place à la biodiversité humaine.
Absolument. Avant d'en venir justement à ce gros chapitre de la biodiversité qui vous occupe depuis quelques années déjà, arrêtons-nous un peu à la photographie de scène. Vous en faites énormément. Vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, le photographe, entre guillemets, officiel du théâtre de Vidi. Vous étiez, vous n'êtes plus. Oui, alors effectivement. J'étais. Alors il faudra remettre à jour votre page Wikipédia. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez faite.
Non, c'est pas moi. J'ai été surpris de la découvrir jour.
Voilà, écoutez, c'est mieux. Donc la scène, justement, là on est dans un cadre, et quand je dis cadre, c'est à dessein, puisque le cadre de la photo, là il ne montre pas forcément la personne en dehors de la scène. Il nous la montre in situ, dans un rôle qui est celui, que ce soit un danseur, une danseuse ou une comédienne, un comédien, qui n'est pas sa propre identité. Donc là, c'est quoi le rapport à la transmission que vous faites au public qui regarde vos photos de scène ? Sympa comme question.
Ouais, sympa. Merci.
Je sais pas, elle est venue comme ça.
J'attends la suivante.
Voilà,
avec impatience.
Oui, voilà, on va mettre un disque.
Non, mais
je vais la poser plus simple parce que je faisais un peu du fer là.
Je pense que tout ce qu'on photographie, quand on est photographe et qu'on se sent concerné par le sujet, c'est toujours la même approche, c'est toujours la même envie. C'est-à-dire que c'est l'envie de faire une image. Et moi, j'aimais bien Charles-Henri Favreau, qu'on disait en fait que l'art de la photographie, c'est l'art du détournement. Et en fait, c'est en photographiant par des angles inattendus ce que l'œil ne voit pas, pour pouvoir retransmettre ce qu'un œil a vu. Parce que si on photographie ce que l'œil voit de façon toute simple, souvent la photo elle est très très banale. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait les bonnes photos sont souvent d'une simplicité déconcertante, et que si on veut cette simplicité, on n'y arrive pas. Donc sur un plateau de théâtre, qu'est-ce qui se passe? Après, moi, je fonctionne de nouveau de façon très très instinctive. Il y a certains photographes de scène qui se placent dans la salle, qui font la photo au moment où l'éclairage est top, avec le geste juste, dans le bon éclairage, dans la bonne situation, la bonne expression. Et puis moi, je suis un petit peu comme quand je voyage, c'est-à-dire que j'aime beaucoup être sur le plateau, j'aime beaucoup le travail qui n'est pas la vision du spectateur, qui est une sorte de réinterprétation de ce que je ressens par rapport à ce qui est dit, par rapport au texte, et aussi par rapport au comédien. Je pense que je suis pas mal sensible en fait au travail du comédien, quoi, qui est un travail quand même assez incroyable. Je parlais encore hier soir, j'ai souvent l'impression qu'un comédien, quand il est sur un plateau, c'est comme s'il traversait un étang gelé en n'étant pas très sûr que la glace supporte son poids. Et je trouve qu'il est dans cette fragilité, dans cet équilibre, et de pas savoir en fait. Et en même temps, je trouve incroyable que des gens arrivent à en faire une passion, à un métier, et de nous transmettre ces émotions. Et moi, j'aime bien être tout prêt pour sentir ces émotions, parce que c'est pas que la parole, c'est aussi l'énergie, c'est aussi les vibrations qui émanent de la personne. Et comment faire ressortir ces choses sur une photographie si c'est pas en se décalant et en réinterprétant? Des fois, c'est la netteté sur un doigt et les yeux sont flous. Des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est un travail suivant les énergies du texte, on va accentuer des dynamiques, suivant les intentions qu'on a perçues du metteur en scène ou de l'auteur, on va plutôt choisir un angle large, des fois plus serré. Enfin, et il y a tout ce travail qui se passe dans notre tête en même temps qu'on travaille. Mais moi, avec cette envie en fait de la proximité, parce qu'en fait, je crois que j'aime bien travailler proche des gens aussi. C'est voilà, j'ai pas beaucoup plus de théories sur.
Mais quand on travaille comme ça avec le matériau de la scène, quand vous plongez avant dans le spectacle, vous allez le voir avant, vous vous imprégnez, ou bien vous débarquez puis vous y allez, vous shootez tout de suite pour être encore plus surpris peut-être.
Alors généralement, j'aime bien aller voir le spectacle une première fois avant de faire des photos. Et de plus en plus fréquemment, la première fois, à la place de regarder le spectacle, je photographie tout de suite. Et en fait, idéalement, si on peut photographier un spectacle 2, 3, 4, 5 fois, c'est formidable. Parce qu'en fait, le travail de photographe, c'est comme un écrivain. On fait des brouillons, des ratures. Et puis à la fin, on arrive à quelque chose. Mais des fois, c'est quelque chose en reprenant les premières pages raturées qu'on arrive à reconstituer le récit. Et la photographie, simplement, c'est de l'image. Mais je trouve que la démarche est à peu près identique à celle d'un écrivain. Quand il doit raconter quelque chose. Puis bon, après, ouais, moi j'aime bien la spontanéité en fait. Mais après, tout à coup aussi, on repère des choses. Mais c'est vraiment assez compliqué, hein, parce que quelquefois, on se dit, ah zut, j'ai raté cette image parce que il fallait que je sois 50 cm plus à gauche, parce que la main était là, et on retourne à la répétition suivante ou au filage suivant, et en fait le comédien a changé, il est plus à la même place. Et c'est vraiment assez compliqué, cette précision, ce travail un peu de broderie est vraiment assez compliqué, parce que chaque filage, chaque répétition, chaque soir est différent au théâtre. Par contre, ce que je fais plus, c'est de lire les textes avant. Les 2 ou 3 fois où j'ai lu le texte avant, en fait, je m'étais fait toute la mise en scène dans la tête. J'avais toute l'image du spectacle. Et quand j'arrivais sur le plateau dans la salle, c'était une autre mise en scène que j'avais sous les yeux. Et j'étais toujours en retard par rapport au déclenchement, à la prise de vue, quoi. Et c'était assez incroyable, hein, parce qu'il y avait tout à coup une confrontation entre mon imaginaire et celui du metteur en scène, et ça créait ce décalage et ce retard dans la prise de vue.
Nous sommes en compagnie à l'abordage de Mario Del Curto, le photographe, et vous travaillez, quand vous écrivez, puisque vous publiez des livres, vous travaillez avec de la musique. On va en écouter un instant, et puis on va y revenir ensuite pour que vous nous expliquiez vos choix, vos ambiances musicales.
Thank you.
C'est une musique très contemporaine que vous écoutez, que vous entendez quand vous travaillez. Vous me disiez avant qu'on commence à parler ensemble pour les auditrices et les auditeurs, vous me disiez, Mario Del Curto, que vous avez besoin d'une musique contemporaine. On a écouté Arvo Pärt. Qu'est-ce que ça vous suggère? Ça vous met dans un état particulier?
Oui. C'est marrant parce que en fait, c'est des musiques où je comprends rien. Moi, j'ai une très mauvaise culture musicale, je chante faux, je chante en mal des notes, mais en même temps, la musique contemporaine, elle a deux effets sur moi. C'est que il faut pas que ce soit des musiques trop agressives ou trop rythmiques ou trop cacophoniques, mais par exemple Gorecki ou du Sapin dans certaines compositions, pour moi ça aide à ma concentration, mais surtout et ça c'est quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard, parce que quand j'ai fait pas mal de photos pour les couvertures des pochettes de Sylvie Courvoisier, qui m'a fait un peu découvrir pas mal d'auteurs contemporains,
la pianiste.
Oui. Et quand je faisais des affiches, ou quand je fais encore des affiches, quand j'ai pas d'idée, je me couche et j'écoute de la musique contemporaine et ça génère des images. Et ça génère des images qui sont incroyables, hein, et c'est des images que j'essaye de faire après pour faire des affiches. Et en fait, pour moi, la musique contemporaine, c'est comme une créatrice d'images mentales pour moi. Donc, je suis bien, quoi, avec cette musique. Alors que c'est pas une musique facile, quoi, je crois. Mais pour moi, elle me fait du bien, elle génère ces images. Et donc, quand j'écris, soit c'est le silence, soit c'est ce type de musique qui m'aide à, je pense, à avoir des images ou à trouver des fois des petits chemins un peu différents pour expliquer quelque chose. Mais je suis pas un grand écrivain. Hein.
Non, mais vous écrivez néanmoins quand même ce qui accompagne les photographies que vous exposez ou que vous publiez. Et justement, là, on va en venir à ce chapitre de la biodiversité qui vous occupe, comme je le disais, depuis un bon moment quand même, et qui passionne les gens qui regardent votre travail aussi. Vous êtes justement là en train de mettre la dernière main à un ouvrage qui va sortir dans 2 mois.
Ouais.
Dites-nous
deux
en
mois
plus.
Et demi.
Oui. Bon, alors à part que vous êtes en retard, dites-nous en plus.
Oui. Bon, c'est le deuxième volume en fait de ma démarche, hein, qui est une démarche que j'ai commencée en 2006-2007. J'avais fait une exposition à l'époque à la Maison d'ailleurs, qui était dirigée par Patrick Guiguer, une exposition qui s'appelait Monde Miroir, et on voulait continuer notre collaboration en faisant une exposition sur les jardins utopiques du fin 19e, début 20e. Et c'est à ce moment-là que a été inaugurée la banque de graines à Svalbard, dans les glaces. Et avec Patrick, on se posait la question.
Norvège, si
c'est en Norvège, au Spitsberg, ouais. Mm. Ouais, au-delà du cercle polaire. Et avec Patrick, on se posait la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des gouvernements, des grandes fondations type Rockefeller, Bill Gates, se soucient de préserver la mémoire génétique des plantes alimentaires? Et en même temps, il y avait une communication qui était très science-fictionnelle. Et on voulait intégrer cette dimension au projet. Et c'était compliqué, parce que comment traiter d'une question un peu agronomique et assez high-tech avec les jardins utopiques? Et là, pour moi, c'était le début de beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. Et c'est devenu un projet que j'ai fractionné en différentes thématiques autour de cette relation entre l'homme et le végétal. Donc j'ai abordé la question du jardin urbain dans la ville du 21e siècle, des jardins modestes, du dernier jardin, le jardin des morts. Et en même temps, c'était un travail qui, au fur et à mesure que je disais, il y a des portes qui s'ouvraient. Et tout à coup, j'apprends que dans le Val Camonica, il existe les premières gravures rupestres d'un plan cadastral qui date de plusieurs milliers d'années. Et tout à coup, bon, je lis une série d'ouvrages en rapport avec ces gravures. Et c'est vrai que le jour où les hommes sont, enfin pas le jour, mais la longue période de transformation de l'homme entre chasseur-cueilleur et sédentaire, au moment où on devient sédentaire, on doit dessiner l'espace avec un mur pour protéger ses cultures, se protéger des plantes invasives. Donc l'espace n'est plus dessiné par l'horizon, mais tout à coup est dessiné par une action de l'homme.
Oui, par une barrière.
Par une barrière. Et en fait, je pense que c'est le début de la notion de propriété privée pour la société humaine. Et propriété privée, enfin, cet endroit qui est aussi un lieu de savoir, hein, puisque l'homme devient dépendant de ses propres cultures pour assurer sa survie alimentaire. Donc c'est aussi un lieu de savoir, c'est un pouvoir. plus cette notion de propriété privée. Et je pense que c'est quand même trois grands axes qui ont marqué tout le développement de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai gardé en filigrane, en fait, cette notion pour aborder les différentes thématiques de mon travail.
Et c'est un travail pour vous avoir lu, pour avoir lu certains de vos commentaires par rapport à vos photos, dans lequel vous prenez position pour la protection de cette biodiversité. Vous ouais. Vous n'êtes pas juste là un documentariste sans être péjoratif. Hein,
non, évidemment. Non, j'adore le document.
Oui, alors justement, ouais, il me semble bien que vous êtes ce qu'on peut appeler un photographe documentariste avec toute la noblesse du travail. Vous prenez position politiquement, en tant que personne impliquée dans la vie de la cité et du monde.
Oui, absolument. Oui, oui. Ben, c'est parce que je pense que j'ai le sentiment qu'on a un moment charnière, en fait, dans l'évolution humaine. Peut-être qu'on est en train de sortir de la préhistoire. Et je pense aussi qu'on a quand même été marqué par la prédominance de la race humaine dans tout le développement social, dans le développement écologique, économique. Et en fait, on a oublié que l'humain faisait partie d'un ensemble. Et que je pense que la vraie pensée écologique, c'est pas la nature au service de l'homme, c'est l'homme est dans un tout et il est en relation avec ce tout. Et donc on doit protéger le tout pour protéger l'homme. Mais si on protège pas le tout, l'homme est dépendant de ce tout et l'homme va disparaître. Et aujourd'hui, on est par rapport à des situations. Là, je viens d'écouter, ben justement, sur vos ondes, un rapport sur l'analyse des particules de plastique dans les vallées alpines, qui est identique à celle de la ville de Paris. Donc ça veut dire que l'ensemble de la planète est recouvert de particules plastiques. On est en train de vivre un changement climatique incroyable. Encore hier, là, j'allais de mon petit village de Cergy-à-Beaume en traversant la forêt avec mon fils, on regardait les sapins et il y a presque un sapin sur 10 qui est rouge. Et ça, en fait, un ancien garde forestier m'a expliqué que c'est que les 3 ou 4 années précédentes de sécheresse ont fait descendre les nappes phréatiques, les racines des sapins vont pas assez bas et ils sont en train de sécher.
Sur pied.
Sur pied.
C'est
visible, hein, j'entends. Oui. C'est pas. Donc voilà. Puis, à partir de là, je pense que si on modifie pas le comportement de notre société, mais totalement, je pense que ça va être très compliqué, parce que les plus grands déséquilibres, je pense, pire que la couche d'ozone, c'est le déséquilibre des micro-organismes qui sont à la base de la vie. Et si tout à coup, dans la Terre, il y a une dégénérescence qui peut être rapide de ces micro-organismes qui permettent à tous les végétaux de vivre, il peut y avoir des catastrophes alimentaires et des catastrophes terribles. Et en parlant de ce moment charnière, moi je suis pas angoissé, hein, c'est pas une vision catastrophiste, mais
vous êtes pas en train de dire c'est la fin du monde.
Non, mais il y a le risque.
Quand même.
Voilà, il y a le risque. Oui, je pense, oui. Ouais. Et je pense qu'on doit, s'il y a pas un changement de pensée radical et que le cynisme continue au niveau global, hein, dans le développement économique. Par exemple, moi, je comprends pas comment on peut être un écolo libéral et continuer de développer la société de consommation et la production à outrance. On doit quand même réfléchir sur toute l'aberration de l'obsolescence programmée, enfin, de toutes ces choses qui coûtent terriblement cher, hein. Je pense qu'il faut réfléchir, y compris aux petites choses. Moi, je trouve hallucinant que tous les gens conscients portent des chaussures Nike qui sont issues à la fois de l'exploitation, à la fois des fuites pétrolières, et on sait qu'il y a cette pollution plastique, et en même temps, on sait que les éleveurs de moutons doivent jeter les peaux parce qu'on ne sait pas que faire des cuirs des animaux. Et je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, quoi. On est dans une société qui est presque schizophrénique entre les enjeux pour pouvoir vivre de façon décente et de garder un environnement sain. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du quotidien, de la production et de ce système? Mais c'est intéressant, hein, parce que je trouve que tous les mouvements de jeunesse et partout dans le monde, hélas, c'est des points de vue et c'est des idées qui sont peu répertoriées, mais il y a quand même beaucoup d'idées, il y a beaucoup de réactions, il y a des choses super intelligentes, intéressantes qui se passent partout.
En lisant et en regardant vos photographies, Mario Del Curto, dans votre dernier ouvrage paru, enfin je ne sais pas si c'est le dernier, mais qui date de 2017 et qui s'intitule « Les graines du monde, l'Institut Vavilov », qui est paru chez Actes Sud, je crois que c'est dans cet ouvrage qu'on voit un paysan sud-américain qui cultive des patates, Et c'est absolument fascinant parce que, d'abord, comme vous l'expliquez, et puis ensuite, quand on voit ce paysan qui vit dans un environnement extrêmement simple et qui a une collection de pommes de terre anciennes qui se monte à 300... À
380.
400 variétés de pommes de terre, et c'est pas un hasard. Il le fait en toute connaissance de cause.
Oui, oui, oui. Bien sûr. Ben c'est précision, c'est pas dans les graines du monde, ça c'est
Pardon.
Dans d'autres parties, mais les graines du monde sont consacrées essentiellement à l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg. Mais ça c'est Roulianko qui habite au Pérou à 4800 mètres d'altitude, et c'est un homme vraiment qui vit avec sa femme, ses enfants, dans une vallée perdue, hein, vous imaginez bien, 4800 mètres, c'est le sommet du Mont Blanc. Donc c'est des conditions climatiques assez dures. On est en zone quand même plutôt sud, presque tropicale, donc c'est pas le climat continental avec des moins 50 en hiver, mais quand même, il y a pas d'électricité, il travaille avec les mêmes instruments que les Incas utilisaient pour cultiver les champs. Et lui, par passion et par conscience et par quelque chose qui est profondément ancré en lui, il a repris le petit domaine de son père qui avait déjà 60 ou 80 variétés de pommes de terre primitives, hein, les papas. Et lui s'est dit, mais c'est une richesse culturelle, c'est un patrimoine extraordinaire. Et il a fait les marchés, il a eu des contacts avec d'autres paysans et il a constitué sa propre collection de 300. Aujourd'hui, il a... Peut-être qu'il a plus, parce que quand je suis allé en 2016, c'était il y a 2 ans, il a sans doute plus que 380 variétés de pommes de terre. Avec une chose qu'il faut savoir, hein, c'est que les pommes de terre, elles germent, donc on est obligé de les replanter chaque année. Une graine de blé, on pourrait attendre 5, 6, 7 ans avant de la régénérer en sol, mais une pomme de terre, si elle germe, ben elle est fichue, donc il perd sa collection. Donc à la fois, il travaille sur sa collection de 380 variétés et il a des cultures de pommes de terre pour vendre. Il fait à peu près 5 tonnes de pommes de terre qui doit descendre à dos de lama jusqu'à une route et ensuite charger sur un bus, faire plusieurs heures jusqu'à un village et ensuite descendre des fois jusqu'à Lima pour vendre les pommes de terre. Et c'est vraiment, c'est magnifique en fait de voir cet homme qui est dans ces montagnes, qui a cette passion, qui fait ce travail. En même temps, c'est du savoir, hein, parce que
bien sûr,
chaque variété implique aussi un traitement, une plantation différenciée, des fois d'une semaine, 2 semaines. Enfin, c'est. Et là, ils ont un truc aussi formidable. Hein, c'est comme les pommes de terre germent. Et ça, c'est un truc qu'ils ont trouvé au Pérou. Mais moi, ça me fascine. J'aimerais connaître l'histoire de cette découverte. Ils ont une variété de pommes de terre. Pour empêcher que la pomme de terre germe et qu'il puisse la garder pendant 3-4 ans pour la consommation, hein, ils l'étendent sur le sol pendant 15 jours en été, quand la nuit est pas très froide, moins 1, moins 2. Et ensuite, ils les mettent dans des grands sacs de jute. Ils les laissent pendant 8 jours dans un ruisseau. Après 8 jours, ils étalent à nouveau les pommes de terre sur le sol. Ils les laissent 15 jours au soleil. Et la pomme de terre devient gris-blanche, un peu comme une pierre. Et des pommes de terre sont en fait lyophilisées, elles sont sèches.
D'accord.
Et on peut les garder 4 ans. Donc s'il y a un problème climatique, on assure pendant 4 ans une réserve.
Oui, si la récolte suivante, par exemple, est foutue, on a quand même de la réserve.
On a quand même de la réserve pour manger.
Oui, c'est fascinant. Et on voit dans les images que vous avez faites de ce paysan, de sa famille et de son travail, tout ça. Alors bien sûr, l'explication du texte à côté ouvre l'esprit. Ça nous apprend des choses totalement fascinantes comme ce que vous venez de raconter, Mario Del Curto. Mais en même temps, de les voir, ça donne un sens à cette réalité. Et c'est en ça, justement, que je trouve qu'il y a une noblesse de la photographie documentaire que vous représentez. Je disais tout à l'heure, quand on parlait de la musique, que vous êtes en train de préparer un nouvel ouvrage. Donc, racontez-nous, là, il y a des choses qu'on va pouvoir voir et découvrir bientôt.
Ah bah oui, oui, oui. Bon, parution d'un livre qui est prévu pour mi-juin, fin juin. Parce que là, j'ai la chance, en fait, de pouvoir aussi exposer ce travail à Arles, dans le cadre des rencontres photographiques. Et moi, ce qui est super, quoi, c'est qu'en fait, je peux exposer dans un jardin. Et pour la première fois, les rencontres font une exposition à l'extérieur, dans un jardin, qui était un jardin abandonné depuis des années, qui est en friche. Donc, je serais dans un espace assez sauvage.
Oui, oui, c'est tout près de la gare d'Arles.
C'est près de la gare,
voilà,
ouais,
bord du Rhône.
Ouais, ouais. Et donc, voilà. Donc, le livre, en fait, c'est le travail de ces 8-10 ans autour de la biodiversité, de cette relation entre l'homme et le végétal, avec les différentes thématiques. Et puis là, je replace aussi un peu quand même l'Institut Vavilov, parce que tout le monde n'a pas acheté ce livre qui s'est quand même pas vendu à 500 000 exemplaires.
Mais on va y remédier.
Merci, je compte sur vous.
Bon, ouais, je vais en acheter déjà 490 000.
Ok, top là. Et non, parce que bon, juste pour l'Institut Vavilov, comme oui. On parle aussi des pommes de terre, c'est vrai que quand j'ai découvert l'Institut et que j'arrive à l'Institut et qu'on m'apprend qu'ils ont 50 000 variétés de blé dans leur collection, c'est un cadeau extraordinaire de se dire qu'il y a 50 000 variétés de blé qui existent et encore beaucoup plus. Et on visite certaines stations, on découvre qu'il y a 800 variétés de cassis.
Ah oui, effectivement.
Et c'est génial, quoi. C'est des cadeaux de la vie, mais aussi de l'esprit humain, parce que la plupart de ces variétés sont le résultat, en fait, de recherches agronomiques, de recherches de paysans. Et en fait, c'est aussi la preuve que la science, elle peut servir à autre chose que le complexe militaro-industriel, hein, et développer des choses qui sont formidables pour l'avenir alimentaire de l'humanité. Et ça, ce travail de l'Institut Vavilov, il est vraiment formidable. Et en fait, dans ce livre, c'est un peu ce que j'espère, hein, qu'on perçoive. C'est, il y a ces deux questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on prend à la terre et qu'est-ce qu'on lui redonne, ou comment on le lui redonne? Et l'autre chose, c'est pourquoi il y a de la terre sur la terre et comment il y a de la terre sur la terre? Et quand on commence de réfléchir à ces deux questions, c'est vrai que, automatiquement, notre vision du monde, elle change un peu aussi, parce que cette origine de la terre, c'est grâce au végétal, et après, c'est grâce aux micro-organismes, et après, on se rend compte que, à l'origine des choses, il y a un micro-organisme qui existe, qui, à un moment donné, s'est séparé entre une branche animale, une branche végétale, une branche mycologique, mais qu'à l'origine, il y a la vie, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est quand même, qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire de cette vie qui est formidable?
C'est une vaste question. Merci Mario Del Curto. Je rappelle que vous allez bientôt exposer. Alors près de nous, ce sera à la Thomasia, le jardin botanique du Pont de Nantes. En fait, c'est une dépendance, si j'ose dire, du jardin botanique de Lausanne. Ça, c'est très bientôt. Et puis l'exposition en Arles, aux rencontres photographiques qui fêtent cette année leur 50e anniversaire. Je sais qu'il y a beaucoup de Suisses romandes qui s'y rendent. Alors donc, allez voir l'exposition de Mario Del Curto au jardin, au bord du Rhône, dans la ville d'Arles. Et puis il y a des livres aussi à paraître chez Actes Sud de tout ce dont on a parlé cet après-midi avec Mario Del Curto.